ok. Quelque chose qui est là-dessus.
OK, c'est parce qu'il apparaît un cadre en plus de l'image. En plus de l'image, du fond d'écran, ce qu'on a là, on peut voir ici, apparaît en plus le cadre de l'image, standard, brillance, contraste, couleur, teinté, etc., etc., etc. Donc, ça prend quelqu'un pour faire disparaître le cadre qui est par-dessus le cadre. Merci, Lily.
La technologie, hein? Merci beaucoup. Alors, bon dimanche et bon matin à vous tous. Et comme je dis toujours, que c'est toujours une grâce de connaître notre Seigneur Jésus-Christ, de faire partie de sa famille, de savoir que nos péchés ont été pardonnés et que nous sommes en route pour le ciel. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir de plus, hein? On a vraiment été graciés par notre grand Dieu et nous avons justement, comme on dit, le meilleur est à venir. Alors ce matin, nous avons préparé pour vous une nouvelle série et comme vous pouvez voir à l'écran, le titre c'est « Caractère en construction ».« Caractère en construction ». Et sans doute, vous l'avez déjà vu sur les plaques d'immatriculation, surtout en anglais, « Be patient with me, God is not finished yet ». Ça veut dire que soyez patient avec moi, le Seigneur n'est pas terminé, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est l'idée magistrale, justement, par ce titre ici, que notre caractère est en construction. Et quand je parle, nous parlons de caractère, c'est surtout comment est-ce qu'en nous agissant, et aussi comment est-ce que nous réagissons face à ce que la vie peut nous apporter. Si, par exemple, vous pilez sur mon gros orteil, la manière dont je réagirai en dirait long sur mon caractère, n'est-ce pas? Alors ça, c'est l'idée que nous avons tous ce caractère, et grâce à notre grand Dieu, il est en train de former, de travailler là-dessus, justement, pour former notre caractère. Alors, on va commencer avec cette nouvelle série. Le titre pour ce message ce matin, c'est « Renouvelons nos pensées ». Et vous allez voir au fur et à mesure que le message avance, pourquoi j'ai donné ce titre. Et c'est tiré justement de notre texte principal pour ce matin, Romains chapitre 12 au verset 2. Vous n'avez pas besoin d'y tourner tout de suite, mais on va y aller tantôt. Alors, on va commencer avec une situation hypothétique. Disons que vous avez l'occasion d'assister à vos propres funérailles. Et là, on demanderait justement aux personnes qui sont là, on pourrait choisir peut-être si vous avez des enfants, un de vos enfants. Vous pouvez aussi choisir, demander à un ami. Demandez à une collègue de travail, une frère, une sœur dans le Seigneur, et toutes ces personnes-là, on leur demanderait de dire quelques mots, apporter un court témoignage à propos de vous, à propos de moi, à propos de nous. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes disent à propos de vous? Qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent à propos de moi? Vous savez, ce ne serait pas « Ah, il y a eu une très belle et grosse maison. Ah, j'étais vraiment impressionné par cela. » Ou bien c'était quelqu'un qui avait beaucoup de diplômes. Ça m'a vraiment frappé. Je ne pense pas que c'est ça qu'on aimerait, n'est-ce pas? On aimerait plutôt que quelqu'un ou des personnes qui sont là disent quelque chose à propos de notre caractère, comment est-ce que j'étais, comment est-ce que vous étiez. Et si, par exemple, aussi, on ajouterait Dieu parmi ces personnes et on demanderait aussi à Dieu, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que nous aimerions que Dieu dise à propos de nous. Vous savez, Dieu a déjà dit des choses à propos des personnes. Et si nous prenons son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous savons ce qu'il a dit à propos du Seigneur Jésus-Christ. Il a ouvert les cieux. Et il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, comme nous avons entendu ce matin, en qui j'ai mis toute mon affection. Une autre version dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Et pourquoi est-ce que Dieu était capable de dire cela à propos de ton Fils Jésus-Christ? Parce que Jésus, à cause de son caractère, à cause de ce qu'il était, par sa façon d'agir, donnait justement un plaisir immense au cœur de Dieu. Et Dieu était vraiment satisfait, comblé, justement, si on peut utiliser ce terme dans ce sens, parce qu'on sait que Dieu est comblé en lui-même. Mais là, il y avait quelqu'un qui, sur la terre, à cause de son caractère et la façon dont il agissait face aux gens, apportait un grand plaisir au cœur de son Père. Et qu'est-ce que Dieu aimerait aussi dire à propos de nous? Parce qu'on sait ce que nous aimerions que Dieu dise à propos de nous. Mais qu'est-ce que Dieu lui-même aimerait être capable de dire si on lui avait donné l'occasion de dire quelques mots à notre funéraille, à nos funérailles? Mais je pense aussi que Dieu voudrait être capable et aimerait dire aussi exactement la même chose qu'il a dit à propos de son Fils. Dieu aimerait vous regarder, me regarder. Et dit justement, en parlant de cette personne qui est là, nous sommes venus ici pour honorer la mémoire de cette personne, et Dieu aimerait être capable de dire à propos de cette personne, celui-ci, celle-ci, est mon fils et ma fille, qui m'a donné sur la terre un immense plaisir. Et comment est-ce que je suis certain, être tellement certain de cela? Parce qu'on voit cela à travers justement la parole de Dieu. On a parlé de la Genèse de ce matin, et c'est là où on voit le plan original de Dieu au tout début quand il a créé l'homme et la femme. Quel était son désir? Il les a créés à leur image. Faisons l'homme à notre image, ce que Dieu a dit. Et non seulement cela, Dieu a doté cet homme d'une intelligence, lui a donné des sentiments, et tout cela, il l'a béni. Dieu, quand il a vu justement le sixième jour, il a créé l'homme, Dieu a vu que tout était très bon. Et le but de cela, c'était simplement d'avoir cette créature merveilleuse, comme David dit dans le psaume 139, pour lui donner gloire, pour, par son caractère et sa façon de vivre devant Dieu, serait une source d'immense plaisir pour le cœur du Père. Mais vous savez qu'est-ce qui est passé? On a l'histoire de la chute. Et on pourrait dire que le plan de Dieu a été comme saboté. Mais Dieu est revenu à la charge. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez tous l'histoire. Il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous, justement pour nous racheter, pour nous ramener dans sa présence, pour que nous puissions encore une fois rentrer dans ce plan merveilleux qu'il y a pour chacun de nous, pour vous et pour moi. Et la parole de Dieu nous dit que dans Romains chapitre 8, que ceux qui ont connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Ça, c'est le plan de Dieu pour vous et pour moi, chers frères et sœurs. Pourquoi être semblable à l'image de l'image de son Fils, semblable à son Fils? Parce que quand nous ressemblons à Jésus dans notre caractère, qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons une joie, nous apportons du plaisir indescriptible au cœur du Père. Et c'est ce qu'il va faire, même quand on voit dans l'Apocalypse, quand il va y avoir les nouveaux cieux et la nouvelle terre, là, on voit encore le plan de Dieu est là. Il est entouré justement par sa création, l'homme qu'il a créé. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. La parole de Dieu nous dit, et Dieu sera leur Dieu, il sera avec eux, il sera parmi eux. Et là, Dieu, il va être entouré justement par qui? Des êtres qui ont été transformés à l'image de Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit que quand il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui. C'est le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous sommes semblables à Christ, le cœur du Père est réjoui. Il trouve un immense plaisir, justement. Et pendant toute l'éternité, il va être entouré par des êtres glorieuses qui sont là et qui ressemblent à son Fils et qui portent un immense plaisir au cœur du Père. Mais vous savez, et c'est voilà pourquoi Dieu travaille encore aujourd'hui en vous et moi, il n'est pas rendu là encore, mais il travaille dans nos vies, dans votre vie, dans ma vie, parce qu'il permet dans notre vie, et son but c'est simplement de nous amener tranquillement à cette ressemblance pour qu'il puisse dire un jour de vous et de moi, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Vous savez, il y a des ennemis. Parce que l'ennemi de Dieu, Satan, ne veut pas cela. Il est anti-Dieu, il est contre Dieu, et son plan, il ne peut pas nous enlever notre salut, mais s'il peut priver Dieu justement de cette satisfaction qu'il trouve dans ses enfants quand nous ressemblons à Jésus-Christ, il va faire tout dans son possible de le faire. Et là aussi, il n'est pas seul. Et il trouve aussi des alliés. La parole de Dieu nous dit que nous sommes justement attaqués par des ennemis, et vous les connaissez. Parce, non seulement Satan, qui est notre adversaire, le diablos, mais aussi le monde qui est là. Et pourquoi? C'est pourquoi l'apôtre Jean va nous dire dans 1 Jean, n'aimez pas le monde. Parce que le monde qui est tricoté, comme Michel dit souvent, il est sur l'empire justement de prince de ce monde qui est Satan. Alors, tout ce qui est dans le monde, la pensée du monde, les philosophies du monde, les projets du monde, les valeurs du monde sont contre justement ce beau projet de Dieu d'avoir ce peuple qui lui appartient, qui ressemble à son fils et qui apporte justement plaisir au cœur du Père. Et le monde est là avec son système justement pour nous faire bifurquer justement de ce plan. Et aussi, il y a un autre allié qui est plus proche que le monde, qui est en nous-mêmes, c'est notre chair, notre vieille nature irrégénérée, qui est là aussi, qui travaille de concert avec le monde et avec Satan, justement pour saboter ce plan de Dieu merveilleux pour qu'on soit semblable à l'image de Jésus-Christ. Alors, il y a une guerre. Et ce n'est pas une guerre qui est combattue dans les tranchées. C'est une guerre spirituelle. Et la parole de Dieu nous dit, parce que Dieu, pour nous aider justement à avoir cette image de Jésus-Christ, d'être semblable à Jésus-Christ, Dieu nous a donné son esprit. L'esprit est là pour nous aider. L'esprit est là simplement pour donner notre faiblesse de nous faire progresser dans la voie de la sanctification afin que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu nous dit que la chair et l'esprit, ils ont des désirs. La chair a des désirs contre ceux de l'esprit et l'esprit en a contre ceux de la chair. Et la parole de Dieu nous dit que les deux sont opposés afin que ne fassiez pas ce que vous voudriez. Combien de fois on soupire, on a chanté ça, être saint, c'est mon désir. Ça, c'est notre désir, je pense, le plus profond dans notre intérieur. Mais l'apôtre Paul, il dit la même chose, il dit, je vois, quand je voudrais justement faire la volonté de Dieu, je vois cette loi qui lutte contre mon entendement, qui me rend captif, justement, à cette loi de péché qui est en moi. Alors, il y a cette guerre, comme je dis, une guerre entre l'esprit, entre la chair, le diable et l'eau, et la guerre, c'est pour le contrôle de notre entendement, le contrôle de nos pensées. Et pourquoi? Parce que si l'ennemi est capable de contrôler notre façon de penser, il est capable de contrôler notre façon d'agir. Et notre façon d'agir est une révélation de notre caractère. Alors, il y a une bataille qui fait rage, même en ce moment, pour le contrôle de nos pensées. Pour saboter justement ce beau plan de Dieu pour que nous ne ressemblions pas de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Stephen Lawson a dit ceci, la bataille pour la sainteté personnelle commence par la bataille pour l'entendement du chrétien. Proverbe 23, 7, je prends la version Darby, appuie justement cela en disant ceci, comme il a pensé dans son âme, tel il est. Votre caractère, mon caractère, est déterminé par ce qui se passe ici dans ma tête. Et contrôle vos pensées, le contrôle de nos pensées, quand nos pensées sont contrôlées, qui ou quoi contrôle nos pensées, contrôle aussi notre caractère. On ne peut pas les dissocier, ça va ensemble. Tels sont ses pensées, comme il a pensé dans son âme, tel il est. Alors la question maintenant se pose, et j'espère que vous êtes en train de vous poser cette même question. Comment gagner cette bataille? Quoi faire justement pour ne pas laisser l'ennemi contrôler nos pensées? Contrôler alors notre caractère et faire en sorte que nous ne ressemblions pas à ce que Dieu désire le plus pour vous et pour moi, cette ressemblance à son Fils. Une ressemblance, comme je dis et je répète, qui prend justement, donne beaucoup de plaisir au cœur du Père. Mais en même temps aussi, j'ai oublié de le dire, de plus en plus que nous ressemblions à notre Seigneur Jésus-Christ, de plus en plus nous soyons aussi et une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et ça, c'était dans le plan original de Dieu. Quand Dieu a béni l'homme, puis il a mis sur le chef de sa création, son désir aussi, c'était qu'il soit une bénédiction pour toutes les œuvres de ses mains. Et l'homme est là, le chef de sa création, même au-dessus des anges, parce que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Alors, comment maintenant coopérer avec Dieu? Comment ne pas justement laisser l'ennemi saboter le plan de Dieu? Comment éviter justement de scraper notre vie parce que Dieu nous a rachetés et est venu à notre rescousse pour nous ramener dans ce plan original? Comment maintenant, et il a payé un grand prix, comme on sait tous, extraordinaire, pour que cela soit possible, comment est-ce que nous puissions maintenant coopérer avec Dieu pour justement ce beau plan merveilleux qu'il y a pour nous, et d'être justement une source de plaisir pour le cœur du Père et être une source de bénédiction pour nos contemporains. Je vous invite à tourner dans Romains chapitre 12, le texte est là, mais c'est notre texte pour ce matin. Où est-ce que l'apôtre Paul va nous donner la réponse justement pour cette lutte, pour notre entendement, en anglais on dit « the mind », cette bataille qui fait rage, l'apôtre Paul va nous donner la clé, justement, comment justement triompher et avoir la clé, justement, dans cette bataille. Alors, Romains chapitre 12, au verset 1, je vais lire pour le contexte rapidement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Et là, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou l'entendement, ou votre your mind, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, si je mets rapidement le texte dans son contexte, l'apôtre Paul vient dans les 11 chapitres qui précèdent, parle justement de ce plan merveilleux de Dieu. Il va nous ramener au début où est-ce qu'il y a le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils parlent après cela, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ. Et là, de façon magistrale, il va exposer le plan de Dieu, une explosion de grâce vers cet homme qui s'est rebellé contre lui pour nous ramener justement à cette image de Jésus-Christ. Il va dire au chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés, nous avons été glorifiés. C'est extraordinaire. Et quand il termine tout cela, il ne peut pas maintenant se retenir, puis il va dire maintenant, c'est tout à fait normal. Après tout ce que Dieu a pour vous, à tout ce que Dieu a préparé pour vous, face à tout ce que Dieu a fait pour vous, il y a juste une seule réaction à cela. Il dit, offrez justement vos corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi? Pour que vous puissiez être tout ce que Dieu veut que vous soyez. Et là, il nous donne maintenant la clé. Comment faire cela? Il nous ramène justement à cette bataille pour justement l'entendement. Parce qu'il sait, qui contrôle nos pensées, contrôle aussi nos gestes, nos actions, notre caractère. Et Dieu veut que notre caractère soit de plus en plus comme le caractère de Jésus-Christ. Alors il dit, voilà. Et il nous montre tout de suite la bataille. Ne soyez pas conformés, ne vous conformez pas au siècle présent. Et une autre version va dire ceci. Ne prenez pas comme modèle quoi le monde actuel. Il nous ramène justement sur le champ de bataille. Pour nous dire que oui, le monde est là, Satan est là, notre chair est là, et ensemble, ils ont un seul but, c'est de vous faire conformer à ce qui est dans le monde. Et le texte dit simplement, une définition que je donne, se conformer soi-même au modèle d'un autre, c'est-à-dire son esprit et son caractère. Alors Paul est en train de nous dire, ce n'est pas ça que Dieu a pour vous. Et vous allez être justement bombardé, vous allez être exposé, vous vivez dans le monde, vous ne pouvez pas sortir du monde, mais il y a une manière justement d'éviter que le monde vous façonne dans une moule où vous ne ressembliez guère à Jésus-Christ. Et j'ai sorti justement deux influences qui peuvent nous influencer. Je ne suis pas en train de dire que l'électronique est une mauvaise chose, mais c'est l'utilisation qu'on en fait, justement, qui est dangereuse. Si vous utilisez l'Internet ou la télévision, quoi que ce soit, pour influencer votre façon de penser, une façon qui vient du monde, vous allez être certain d'être influencé dans votre façon de réagir. Alors, il faut être extrêmement prudent. Parce que ce qui est véhiculé souvent sur, justement, ces éléments, sont anti-Dieu parce que, comme je dis, Satan, c'est le prince de ce monde. Il contrôle tout cela. Il y a des bonnes choses, des très bonnes choses. Il y a le site chrétien. Tu peux y avoir là-dessus, au lieu d'être obligé d'acheter des encyclopédies et des bibles, tu pouvais avoir tout cela sur l'Internet. Mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses qui sortent. Et comme on dit en anglais, il y a un acronyme, GIGO, G-I-G-O, garbage in, garbage out. Alors, il faut faire très attention. Si on remplit notre esprit, notre entendement avec des mauvaises choses, mais il y a des mauvaises choses qui vont en sortir. Mais, nous avons l'autre partie. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ce matin. Maintenant, ce n'est pas ça que Dieu a pour vous. Parce que si vous faites ça et vous vous laissez conformer à ce monde, vous n'allez pas ressembler à Jésus-Christ. Et vous n'entrez pas dans le plan que Dieu a pour vous, soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le mot ici, on l'a en français, métamorphose, et on utilise souvent l'illustration de la chenille et le papillon. et vous avez deux choses tout à fait différentes. La chenille qui rampe sur la terre ou sur les feuilles, qui mange des feuilles. Et là, vous avez le papillon qui est tellement gracieux, qui vole dans les airs et qui butine dans les fleurs et du nectar. Alors, l'image est là. L'idée, c'est qu'avant, on était comme ça. Maintenant, nous avons connu la grâce de Dieu. On est transformé, métamorphosé. On devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le but que Dieu a pour nous, c'est de ressembler à ce Fils et être capable de nous regarder, même ici bas sur la terre, et dire oui, tel un tel, oui, c'est ma fille, c'est mon fils. Et par sa façon de vivre, par son caractère, je trouve un immense plaisir dans cette personne. Et je veux la bénir aussi, la rendre une source de bénédiction. Soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Et vous savez comment est-ce qu'on renouvelle notre intelligence? Mais il y a une seule manière de faire cela, c'est par la parole de Dieu. Psaume 119, 9 va dire ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Vous savez, le jeune homme, comment est-ce qu'il va rendre pur son sentier? Comment est-ce qu'il va avoir un caractère où est-ce que les gens peuvent regarder et dire, c'était un jeune homme qui marche droitement en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant justement de dire, ah, j'ai une Bible, j'ai la parole de Dieu. Alors, c'est ça qui va transformer mon caractère. Ce n'est pas ça du tout. Nous allons être transformés, nous allons renouveler notre façon de penser quand on prend la parole de Dieu et nous allons la mémoriser et la méditer. Et ces deux grands sujets, on n'a pas le temps ce matin, je vois que le temps file. La méditation, c'est toute une... Je parle de méditation transcendantale, où est-ce qu'on vit de l'esprit, où est-ce qu'on fait « oum, miam, whatever », un mantra, puis on essaye justement de... N'est-ce pas cela? C'est de remplir, le contraire, de remplir notre esprit avec justement la pensée de Dieu. Et il n'y a pas de méditation sans mémorisation. C'est pourquoi je commence avec la mémorisation. Très important, justement, de mémoriser la parole de Dieu et avec la puissance du Saint-Esprit, appliquer justement à nos vies, à notre entendement, puis ça fait des choses extraordinaires, ça transforme justement des vies. Et avant d'aller justement dans les techniques, justement pour montrer cela, juste quelques bienfaits qui découlent de la mémorisation de la parole de Dieu. Ça nous permet de triompher sur le péché. Encore Psaume 119, 11, le psalmiste va dire, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors, si on mémorise la parole, on va y avoir justement une arme puissante pour nous justement donner la victoire sur le péché. Vaincre Satan, nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle par excellence. Quand il était tenté par le diable, c'était quoi sa puissance, sa force pour résister à la parole de Dieu? Combien de fois il a dit à Satan, « Il est écrit ». Et l'ennemi, il n'y avait pas de réplique contre cela. La parole de Dieu avec sa puissance a mis l'ennemi en fuite. Et avez-vous remarqué qu'à travers les évangiles, combien de fois le Seigneur Jésus-Christ va dire, « N'avez-vous pas lu? » Il a été dit, il était imbibé avec la parole de Dieu, et c'est pourquoi il y avait tellement un ministère qui était tellement puissant, parce qu'il y avait cette puissance en lui par la parole de Dieu. Nous avons aussi de réconforter les gens et conseiller, Proverbes 25, 11, « Comme des pommes d'or dans les ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » Combien de fois nous avons des personnes qui sont dans des situations difficiles? Et là, vous avez un texte qui vient à l'esprit parce que vous l'avez mémorisé. Vous êtes capable justement d'apporter une bombe sur l'âme de la personne et de les réconforter. évangéliser les perdus. On sait qu'il y a justement les fermiers chrétiens qui sont là cet été. On veut témoigner, on veut partager la parole de Dieu. Et 2 Timothée 3:16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile justement pour quoi enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et là, vous avez une arme puissante, justement, pour l'évangélisation de la parole de Dieu. Communier avec Dieu, quand on est dans la parole de Dieu, quand on mémorise la parole de Dieu, quand on voit les attributs de Dieu à travers sa parole, alors nous sommes capables d'avoir cette communion intime avec notre Père et le bénir, comme le psalmiste dit en Psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mais pourquoi il s'est exalté comme cela? Parce qu'il a vu Dieu dans la parole de Dieu. Et finalement, se conformer à l'image de Christ, de Corinthiens 3:18, nous avons là que nous tous, dans le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Christ, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et quand on voit Christ dans la parole de Dieu, parce que nous l'avons mémorisé, ça nous aussi nous transforme à son image. Alors, ce sont les bienfaits juste de mémoriser la parole de Dieu. En plus de travailler aussi sur notre caractère et nous transformer de plus en plus à l'image de Christ. Charles Swindoll a dit ceci, « Je ne connais pas une autre pratique singulière qui est aussi enrichissante que la mémorisation de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre exercice qui paye autant de dividendes spirituels. Cela fortifiera votre vie de prière. Votre témoignage sera plus efficace, votre attitude et votre perspective face à la vie changeront, votre confiance en Dieu augmentera et votre foi sera solidifiée. » Voilà, voilà ce que la parole de Dieu, quand elle est mémorisée, quand elle est serrée dans notre cœur, voilà qu'est-ce qu'elle peut faire. Alors, je pense que la problématique, si on veut être honnête avec nous-mêmes, mais moi je suis honnête aussi avec vous, c'est que nous sommes entourés de choses qui nous donnent plus de plaisir que la parole de Dieu. Et Dieu nous a créés comme cela. Nous sommes des êtres qui aiment le plaisir. Et pourquoi est-ce qu'on va s'adonner à peut-être un certain sport ou bien une certaine activité? Parce qu'on reçoit, on n'est pas masochiste, on reçoit un certain plaisir dans les choses que nous faisons. Et je pense que la problématique, c'est que nous n'avons pas encore découvert l'immense plaisir qui se trouve dans la parole de Dieu. Et là, vous avez dans Psaume 1 et 2, où est-ce qu'on lit ceci, « Heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. » Alors, Dieu est en train de nous dire, écoute, vous allez être attirés par les choses de ce monde, mais vous pouvez aussi trouver un immense plaisir dans la parole de Dieu. Et si vous lisez le Psaume 119, vous serez justement frappé de voir combien de fois le psalmiste va dire ceci, « Combien j'aime ta parole, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ta parole fait mes délices. » Et vous devrez, c'est extraordinaire, pour gagner cette bataille. Parce que si on ne se donne pas à la mémorisation, parce qu'on ne l'aime pas, on trouve ça c'est ardu, c'est si bien ça, c'est sûr qu'on va être attiré vers d'autres choses qui vont nous donner le plaisir. Mais si on peut découvrir justement le plaisir qui est dans la parole de Dieu, ça va être plus facilement à s'y donner. Puisqu'on mémorise, puisqu'on aime, puisqu'on va le mémoriser. Alors, rapidement, quelles sont les techniques qu'on pourrait utiliser? Je vous les donne. Vous savez, notre cerveau, là, il peut en prendre. Hein? Même à un âge avancé, on peut... Alors, trouvez des manières différentes, peut-être pour quelques-uns, c'est le matin avec votre café et votre Bible, et vous pouvez souligner, et là, vous prenez un verset, peut-être des petites cartes, vous écrivez un verset, vous mettez ça sur votre frigidaire, puis vous passez devant, vous le regardez, vous le lisez, qu'importe, un disque compact. Moi, ça, c'est la manière dont je me suis pris. Ça, c'est Romains, chapitre 1 jusqu'à 16. Que j'avais sur une cassette que j'ai transférée. Dans ma voiture, quand je roule, je mets ça dedans. Et c'est remarquable, sans faire un effort conscient, le fait de l'entendre répéter, ça reste. Combien de fois vous êtes au supermarché ou quoi que ce soit, là, au centre, dans une maille, et vous avez entendu un chant, et là vous, vous retournez chez vous, et qu'est-ce qui se passe? Le chant est là, ça tourne. Vous n'avez pas pris une fois conscient pour le mémoriser, mais ça rentre. Et là, il y a aussi des MP3, qu'importe, whatever fits you best, qu'est-ce qui est pour vous, là, qui va être la meilleure chose, mais il faut trouver une manière d'avoir la parole de Dieu, de sortir de la page, puis avoir ici dans le cerveau. Et comme je dis, c'est répétition et révision. C'est la seule manière qu'on va justement emmagasiner et garder cela. Alors, transformé par le renouvellement de l'intelligence, si on veut maintenant mettre ça en pratique. On a été conscientisé que si oui, on devrait faire cela, on voudrait être semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. On veut que notre caractère soit transformé. On veut ressembler de plus en plus, comme on chante, te ressembler Jésus. Hein? Des fois, c'est mon vœu suprême. Agir, penser, plus comme toi. Mais c'est la seule façon de faire cela, c'est de commencer avec la mémorisation de la parole de Dieu. Et la première chose, je pense, c'est une prière. De demander, de supplier Dieu de nous donner cette faim, cette soif, cet amour pour sa parole. Et après cela, d'être discipliné, puis de trouver un temps où est-ce qu'on va dire qu'on va justement mettre cela à part pour mémoriser la parole de Dieu. Deuxièmement, un plan. Ça dépend de vous, de votre ambition, si vous êtes de ceux qui aiment le défi. Alors, un verset par semaine. Pour commencer avec le verset, vous êtes dans une situation, selon votre situation. Philippiens 4, 6, si vous êtes dans une situation difficile, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications, les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce sont des versets clés, Isaïe 41, 10, qui nous parle justement de ne pas s'inquiéter parce que l'Éternel est avec nous. En tout cas, qu'importe, mais commencez quelque part et commencez avec quelque chose. Deuxièmement, pour ceux qui aiment plus de défis, un passage par mois. Apprendre des psaumes, il y a des psaumes qui justement nous poussent à la lecture de la parole de Dieu, qui nous poussent justement à l'adoration du Seigneur, qui nous poussent dans toutes les directions. Parce que là-dedans, vous avez la gamme justement des émotions et ce qu'on peut vivre ici-bas sur la terre. Et David, il exprimait beaucoup de choses à travers des psaumes. Alors, il y a des psaumes comme 101, 123, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien ». Psaume 100, etc. Psaume 119, ça c'est pour les plus costauds là, qui voudraient avoir un défi. 176 versets. Mais ce qui est particulier avec le psaume 119, c'est parce que chaque verset, il y a seulement deux idées. Et souvent, c'est juste deux lignes. Verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. That's it. Ça, c'est un verset. Heureux, verset 2, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 2. Et vous continuez comme cela. Alors, si vous mémorisez un demi-verset, juste la première ligne, ça va prendre un an. Si vous mémorisez un verset par jour, 6 mois. Si vous mémorisez 2 versets par jour, 3 mois, vous aurez mémorisé le psaume 119, et qui est un incitatif justement pour la parole de Dieu, l'amour et la mémorisation de cela. Je continue. Trouver un partenaire, parce que vous savez, c'est bien quand on a une challenge. Là. Okay? Alors, vous pouvez trouver quelqu'un pour dire, écoute, on va apprendre la parole de Dieu ensemble. Et là, vous vous donnez un défi ici, ça peut être un beau projet de couple. Là, vous vous donnez un défi, on va apprendre ensemble le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence, ainsi de suite. Alors, s'amuser, avoir du plaisir, justement, dans l'apprentissage, la mémorisation de la parole de Dieu. Et je termine avec ceci. pour nous encourager, ça, ça m'a encouragé. Il y avait un nommé Charles Hayward, c'était un missionnaire. Avec son épouse, Virginia, ils étaient missionnaires en Inde et aussi en Afrique du Sud. Et à 73 ans, quand il a pris sa retraite, il a voulu laisser un héritage à ses enfants et ses petits-enfants. Alors, il a décidé de mémoriser des versets clés de la parole de Dieu. Il a commencé avec Genèse chapitre 15, au verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Puis il a décidé, il va dire, je vais apprendre un verset clé, ça peut être une promesse de Dieu, dans l'Ancien Testament, de chacun des livres de l'Ancien Testament. Quand il est arrivé au Nouveau Testament, il a dit, OK, pour les évangiles et pour Actes des apôtres, je vais prendre un seul verset. Et après cela, pour les épîtres, je vais apprendre dans chaque chapitre des épîtres, je vais apprendre un ou deux versets. Alors, il a mémorisé 259 versets et il a commencé à 73 ans. Il est mort en 87. Il a laissé tout un héritage à ses enfants, ses petits-enfants. Eux autres, ils appelaient ça « Charlie's List », la liste de Charlie, parce qu'il y avait ces versets là-dessus. Là. Puis j'imagine qu'il les répétait. Puis c'est... Mais c'est tout un exemple, puis tout un défi pour nous autres. Moi, j'ai 68 ans, et je me suis dit, si un homme à 73 a pu faire cela, il y a l'espoir pour moi. Et pour vous qui êtes plus jeunes, il y a encore l'espoir pour vous. Alors voilà, transformons notre caractère en transformant notre façon de penser et en faisant cela simplement par la parole de Dieu. Et nous continuons la semaine prochaine. Notre frère Adama va nous montrer un deuxième aspect justement de notre caractère, c'est de garder nos cœurs, extrêmement important, parce que ça aussi, ça a une influence sur notre caractère. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons que dans ta bonté, tout d'abord, tu nous as créés à ton image. Et ton plan pour nous, ton désir, c'est d'avoir ce peuple qui t'appartient, qui te ressemble à ton Fils, et qui jouit justement de ta bonne main de bénédiction sur nous. Et Seigneur, tu nous as donné aussi la manière d'y arriver, de coopérer avec toi, avec ton esprit, par ta parole. Alors Seigneur, donne-nous ce désir de la mémoriser, de la méditer, de mettre en pratique. Nous voulons être de ceux qui sont la lumière du monde. Nous voulons être de ceux qui sont la sel de la terre, afin que nous puissions être utilisés par toi pour avoir un impact chez nos contemporains. Alors bénis-nous Seigneur et bénis ta parole à nos cœurs. Sépare-nous avec ta bénédiction. Nous demandons au nom de Jésus. Amen.